Allons au fait par Régis Debray, le religieux mis honnête.
Que faut-il entendre par sacré ? Rien n'est sacré en soi, mais on ne connaît pas de société, fût-elle officiellement athée, qui n'ait en son sein un point de sacralité, quelque chose qui légitime le sacrifice et interdit le sacrilège. Et c'est intouchable. Se sacraliser se distingue du profane ou de l'anodin par des traits reconnaissables à l'œil nu, et ce sont ces contours que j'aimerais esquisser aujourd'hui. Étrange destin que celui de ce mot, à la fois étrange et familier. Hier, dans toutes les bouches, surabondamment salué et reconnu, il n'est plus bien porté, il n'a plus droit de cité. Sacré est devenu tabou, ou du moins malséant. Le substantif fait peur parce qu'un référent ainsi baptisé suppose de révérence, et l'épithète fait sourire par la nuance d'ironie admirative qu'on y met. Oui, parce que une sacrée musique n'est pas une musique sacrée. Si on sourit en parlant d'un sacré farceur ou d'une sacrée jolie fille, c'est au fond pour mieux conjurer la crainte ou l'embarras que suscite aujourd'hui l'amour sacré de la patrie et autres versets jacobins qui nous semblent un peu trop sentir la terre et les morts, le cantique des armes et l'hécatombe des corps. Aussi le sacré s'est-il absenté des discours publics. Il est proscrit de nos textes législatifs. On peut dire par exemple qu'une tombe a été profanée. On peut rédiger une loi contre l'outrage à la Marseillaise et au drapeau. On peut interdire de manipuler le génome de l'espèce humaine. On peut prohiber le trafic d'organes prélevés sur un cadavre. Mais il ne s'en déduit pas qu'on puisse remonter à la source et dire que une sépulture, un hymne national, le génome ou la dépouille humaine ont quelque chose de sacré en eux. Ah oui, parce que c'est logique. S'il n'y avait rien de sacré, il n'y aurait ni outrage, ni viol, ni profanation. Profaner, oui, ça se dit couramment. Sacraliser, halte là. C'est comme un livre de cuisine qui parlerait du cuit mais non du cru, un bulletin météo qui parlerait du froid mais non du chaud. Ça susciterait en nous quelque étonnement, mais ce qui nous étonnerait, nous, c'est d'entendre le mot sacré dans la bouche d'un politique ou d'un sociologue. Alors que la distinction sacré-profane, elle est aussi banale que celle du jour férié et du jour ouvrable. En fait, elle est à tous les coins de rue, cette opposition, mais sans le nom propre. N'est légitime et valorisant chez nos officiels que la langue des valeurs, cet édulcorant citoyen qui est au sacré civique, ce que Walt Disney est à Sophocle, le Nutella à la crème anglaise ou le McDo au bistrot du coin. Nous savons le rôle que joue l'addiction au sucre et au doucereux dans l'infantilisation des peuples. Nos malheureux ministres, pour s'adapter à l'ère du temps qui est à la moraline, le complément du règne des chiffres, nos ministres tartinent leur discours avec les valeurs de la République. Et on comprend pourquoi. Cette douceur ne coûte rien. Nos valeurs sont sans pénalité. Elles n'obligent à rien de sérieux ni de précis, dépourvu qu'elles sont d'infractions, de règlements et de sanctions, alors que là où il y a du sacré stipulé, il y a de l'impératif catégorique, avec du contraignant et de l'obligatoire. La valeur est molle, le sacré est dur. La valeur, ça plaît à tous, c'est la fonction du kitsch et le métier des politiques. Le sacré, ça effraye. On y flaire quelque chose de lugubre, de sanguinaire ou de mauvais augure. Ce qui d'ailleurs n'a rien d'absurde, parce que le sacré, ça peut se définir comme ça, rapidement. Comme cela qui légitime le sacrifice et qui interdit le sacrilège. Or, nous n'avons aucune envie de nous sacrifier pour quoi que ce soit. Et nous détestons viscéralement les interdits, sauf pour avoir la gloriole de les enfreindre. Et le plus drôle, c'est ceci. C'est que notre société, que le fameux « il est interdit d'interdire » faisait il y a peu, enfin il y a 50 ans, rougir de plaisir, elle ne cesse depuis d'aligner des sanctions de toutes sortes pour qui viole telle loi mémorielle, telle bienséance de langage, telle règle de politesse. Légion sont les mots à ne plus prononcer, celui de race par exemple. Les gestes à ne pas faire, le baisement un peu suspect. Les vêtements à ne pas porter, le voile par exemple. Et il n'y a rien là de répréhensible, bien au contraire, ni même de très original, puisque toutes les sociétés humaines depuis la nuit des temps ont pour devise ou slogan, ou en tout cas pour ligne de conduite et pour règle irrémédiable, quelque chose comme « il est interdit de ne pas interdire ». Alors nous nous vantons de ne plus rien tenir pour sacré, mais au fond nous trouvons fort normal que les auteurs d'une BD au deuxième degré, ironisant sur les nazis et sur les déportés juifs, aient été condamnés à une forte amende et leur ouvrage interdit à la vente, il y a quelques années de cela. Nous estimons que la pédophilie est un crime sans pardon et que s'en aller cuire un œuf sur le plat au-dessus de la flamme du soldat inconnu à l'Arc de Triomphe, ou pire encore, aller ouvrir une crêperie sous le portail du camp d'extermination d'Auschwitz, Arbeitmachtfrei, ça constitue plus qu'une incongruité ou un acte de mauvais goût. Mais surtout, que le mot sacrilège ne soit pas prononcé. Il nous ferait rougir, nous, les lecteurs du Canard enchaîné, pour qui la liberté de penser s'appelle Charlie Hebdo. Le festival de Fès des musiques sacrées est certes à l'honneur. Et si le surnaturel et l'ésotérisme prospèrent sur nos gondoles, le sacral s'est réduit au folklore. C'est réduit au folklore partout où l'économie est reine. Et on ne sache pas que les milieux où l'on colloque, disserte et polémique sur la démocratie, la République, le lien social, le vivre ensemble, etc., se mêlent d'aborder le thème du sacré. Il est à la fois ce thème structurant et mal aimé. Et alors d'où il vient ce malaise, ce dédain ou ce refoulement? Je dirais à première vue d'un amalgame avec la bondieuserie et la sacristie. Et d'ailleurs, cet amalgame, je l'ai longtemps fait mien, jusqu'au jour, dans les années 1980, où, me promenant à Moscou sur la place Rouge, du temps donc de l'Union soviétique, j'allumais nonchalamment un cigario et j'ai vu fondre sur moi un soldat Chapka pour m'enjoindre avec des gestes impérieux de mettre fin immédiatement à cette impiété, de jeter cette cigarette. Car il était interdit de fumer, non seulement dans le mausolée de Lénine, mais devant le mausolée de Lénine. Mon geste malheureux m'a appris que l'athéisme officiel n'est pas sacrifuge, comme on dit vermifuge, mais qu'il est au contraire sacrophile. Il aime le sacré jusqu'à la manie, avec toutes sortes de solennités sans spiritualité, de ferveur réfrigérée, mais qui en imposait. Oui, pour découvrir ce religieux réduit aux aquets, il suffisait de parcourir l'Union soviétique avec les hiérarques du Politburo, les hiérarchies du parti, le hiératisme des cérémonies officielles et les hiérophantes des instituts du marxisme-léninisme, je veux dire les professeurs qui initiaient les profanes au mystère de la science matérialiste. Oui, tous ces mots viennent du préfixe hieros en grec, sacré. Mais là encore, ce rappel eût été fort déplacé dans le monde communiste. Mais à l'autre pôle, où l'on pouvait s'attendre à un préjugé favorable envers le sacré, décidément, le public manque. J'en sais quelque chose, pour avoir consacré de nombreuses études au sacré sans grand succès. Eh bien, la paroisse n'est pas mieux disposée que la cellule. Parce que un bon chrétien, il va flairer dans le sacré une valeur encore païenne et primitive à ses yeux. Il n'a d'ailleurs pas tort, parce que le sacré était là bien avant Jésus-Christ, et même, je vais tout vous dire, avant le bon Dieu. Alors, les fidèles côté paroisse, ils se rattrapent avec la racine agios, en grec, agios, qui veut dire saint, d'où nos hagiographies, les biographies des saints. Ce n'est pas la même chose, hein. Le sacré concerne les choses, la sainteté concerne les hommes. Et le parti pris des choses n'est pas celui des hautes spiritualités. De fait, ce ne sont pas les pierres qui sont saintes ni sanctifiables, ce sont les cœurs, les âmes. L'Église romaine, en tant qu'institution, a beau avoir des sacristains dans ses églises, un sacré collège au Vatican, des vases sacrés dans le tabernacle et la basilique du Sacré-Cœur à Montmartre. La morale et la théologie catholique mettent très au-dessus de la notion de sacré où plane l'ombre de la violence et de la mort, le pur amour de la sainteté qui n'a à voir qu'avec l'amour et avec la vie. Et chez les protestants, le temple lui-même n'est pas un édifice sacré où la divinité se tient à demeure. Il n'est lieu de culte qu'au moment où le culte est célébré, qu'au moment de la proclamation de la parole et de la célébration de la Sainte Cène. Les protestants aiment encore moins le sacré que les catholiques. Et pourtant, on a vu dernièrement les créateurs et les grandes marques de mode s'inspirer du sacré vestimentaire pour leur dernière collection. Et on ne sache pas que la sainteté, qui elle ne se détourne ni ne se pastiche, puisse jamais inspirer nos designers. Oui, il faut distinguer ces deux régions de l'âme qui se côtoient sans s'aimer. Sanctifier une personne, c'est la donner en exemple et inciter la foule à la rejoindre. Sanctuariser un lieu, c'est en réglementer l'entrée et faire que la foule ne puisse pas y entrer. Disons que le saint, c'est une estrade, un piédestal. Le sacré, c'est une crypte ou un caveau. Ça prospère dans le concave. Et de fait, le sacré a précédé, et de loin et de plusieurs millénaires, la sanctification, comme le rituel sacré a précédé la maison de Dieu, qui a elle-même précédé la maison du roi. Le sacré, c'est une notion basique, comme on dit. C'est la base de toute la pyramide religieuse qui s'est ensuite édifiée par-dessus. Tout commence par là, dans le chronogramme symbolique du Sapiens Sapiens. Le sacré est vraiment primitif, hein? Il vient en premier, il devance. Le divin, plus tardif, ça suit le mouvement. Et le Dieu unique, il arrive en queue, mais si j'ose dire, il va rafler la mise. Le premier, le sacré, est plus large que le deuxième, le divin, qui est lui-même plus vaste que notre Dieu, avec un grand D. Notre pyramide symbolique, c'est une pyramide dont chaque gradin a servi de fondation à la suivante, avec tout en haut, en pyramidion, le dieu d'Abraham. D'où l'ordre des entrées en scène chronologique et le schéma classique de l'évolution en trois temps. Le sacré animiste, c'est la préhistoire, sans continent privilégié. Le divin polythéiste, c'est la proto-histoire, celle du Proche-Orient et de la Méditerranée. Et enfin, les religions du salut, les nôtres, c'est notre histoire écrite, terminus, tout le monde descend, trois temps, hein, sauvagerie, barbarie, civilisation, les esprits, les déités, le Dieu unique. C'est ça, la logique et la chronologie. Alors c'est un schéma que les archéologues peuvent accréditer, le schéma est peut-être un peu nombriliste, mais il a des marqueurs tangibles à chaque stade, hein, depuis l'abri sous roche jusqu'au gratte-ciel de verre, comme dit l'archéologue Julien Chanteau. Le sacré préhistorique, il est attesté par l'existence de sites singularisés et isolés avec des pierres dressées, des cairns, des bétels, des menhirs, des dolmens. Allez en Bretagne et vous verrez le sacré de la préhistoire. Les premiers cultes religieux, au sens large, ils ont pour marqueur des maçonneries en pierre, hein, des temples, des monuments, des sanctuaires qui peuvent être d'ailleurs de petite taille. Il y a une différence entre le sacré et le divin. Le sacré peut avoir des espaces à ciel ouvert, le divin exige des espaces couverts. Il faut un toit pour protéger le dieu ou la déesse des intempéries et de voisinages plus ou moins profanatoires. Alors, vous voyez bien ce qu'on peut inférer de ce que je viens de dire. Parce que dire qu'il y a eu, dès le paléolithique, du sacré sans religion, suivi au néolithique de religion sans théologie, ça veut dire, si l'on se tourne vers l'avenir, que la mort de Dieu ne signifierait nullement une sortie de religion, ni une sortie de religion, la sortie du sacré. Rabattre le sacré sur le religieux, ça reviendrait à réduire les chants et musiques sacrées du monde au répertoire liturgique, aux pleins chants, aux antiphonaires et aux musiques de messe, en éliminant le gospel, les negro spirituals, le flamenco, les chants corses et les chorales de l'armée rouge, héritières des magnifiques chœurs byzantins. Ça signifierait d'éliminer tout ce qui psalmodie une expérience ou une souffrance collective, tout ce qui se danse en cercle, main sur l'épaule. Éliminer tout ce qui fait battre le cœur, accélérer le pouls ou donner la chair de poule. Quand le divin pinacle s'effondre ou s'effrite, les murs du religieux restent debout et quand les murs tombent à leur tour, demeure le socle du sacré. Il est de fondation. Et comment le sait-on pour la nuit des temps? Eh bien, parce que sur les champs de fouilles, les frissons sacrés se sont évanouis, mais les tumulus et les pierres dressées sont toujours là. Non seulement, contrairement à la notion de religion, celle de sacré a une expression linguistique sous toutes les latitudes, mais c'est la seule dont on peut suivre l'expression matérielle tout au long de l'histoire humaine, depuis les sociétés sans écriture jusqu'à la nôtre. L'opposition d'un dedans et d'un dehors, d'un fermé et d'un ouvert, donc d'un sacré et d'un profane, elle a traversé toutes les médiasphères. Ce que j'appelle la mnémosphère, c'est-à-dire la sphère de la mémoire, l'ère des transmissions de mémoire non écrite, de la préhistoire, par le biais des constructions monumentales et des pierres dressées, la logosphère, qui est la transmission orale de textes manuscrits, la graphosphère, qui est l'ère des livres et des imprimés dont nous sortons, et la vidéosphère, où nous sommes. Alors c'est vrai que dans la vidéosphère, la distraction règne, elle est même de mieux en mieux entretenue, mais elle n'empêche pas les tueries pour quelque chose de sacré, c'est-à-dire pour la conquête ou le contrôle d'un mur, d'une esplanade ou d'un lieu de naissance. Disons que notre demeure symbolique s'est édifiée par strates successives, repérables chronologiquement, mais dont chacune s'emboîte dans la suivante, sans disparaître pour autant. Le plus sauvage n'est pas éliminé par le plus civilisé, disons, le sacré n'est pas éliminé par le dieu unique. Le chaman survivra à l'archidiacre. Le fond des âges n'a pas de fin. Et les rituels de transe se retrouvent au zénith dans les concerts de rock. En matière de ferveur collective, donc, l'âge des circuits intégrés n'est pas brouillé avec l'âge du bronze. Sans doute, la fonction guerrière a perdu ses vieux prestiges, car c'est dans les batailles surhumaines des origines, l'Iliade, la chanson de Roland, le Cid, c'est dans l'enthousiasme unificateur des épopées fondatrices que la référence à une instance sacrée a revêtu tout son éclat, comme en témoignent encore ces grands portails de mots que je viens de situer à l'orée des narrations nationales, à l'orée des romans nationaux. Et c'est vrai que la paix et l'absence d'ennemis démobilisent et rejettent dans l'ombre ces flamboyances sacrales, communautaires et archaïques. Mais même dans notre paisible démocratie, on a encore des aperçus sur ce sacré primaire, à certains moments. Chez nous, hein, chez nous et pas à l'île de Pâques, ni au musée des Arts Premiers. Oui, on en a des aperçus avec nos obsèques nationales dans la cour des Invalides, quand on entend la sonnerie aux morts et les roulements de tambours qui nous donnent à sentir un sacré, que j'appellerais un sacré d'ordre, un sacré institutionnel. Et puis, nos défilés silencieux, République Bastille, quand on défile et qu'on marche coude à coude en hommage à nos massacrés, on ressent ce que j'appellerais un sacré de communion, un sacré populaire. Et puis, je vous rappelle, la départementale qui nous mène à Verdun, elle s'appelle la Voie Sacrée. Et le chant des partisans au Mont-Valérien, le 18 juin, chaque année, ça nous fait passer un frisson dans l'échine. Et pourtant, dans ces liturgies profanes, il n'y a pas de prêtre, il n'y a pas de djinn ou de génie. Rien de surnaturel. Ou alors si, disons, un surnaturel autogéré, si vous voulez. Le sacré, c'est du transcendant fait maison, du surnaturel cousu main, sans aide extérieure. Alors, premier constat pour l'historien des mentalités, il n'y a pas de sacré pour toujours, mais il y a toujours du sacré dans une communauté organisée. Et ce constat, c'est déjà une raison pour éviter l'article défini, le sacré. Le sacré en soi, ça n'existe pas. Ça n'existe pas comme une réalité substantielle, surnaturelle et sous-jacente qui se révélerait de loin en loin par ce qu'on appelle des hiérophanies, des apparitions de sacré. Un peu comme un volcan en sommeil qui, de temps à autre, aurait des jets de lave comme ça, épisodiques. Non. Rien n'est sacré par nature, mais n'importe quoi peut le devenir. Un arbre de mai, comme pendant la Révolution française, la source d'un fleuve, un parchemin, un tableau, voire même un fémur ou une plume d'oie, parce qu'on fait relique de tout. Ça ne veut pas dire qu'on change de sacré comme de chemise, mais que nos vénérations vont et viennent, et il y a un temps pour tout d'ailleurs, même pour le sacré. Car le sacré se désacralise. Une sépulture peut être ouverte et une dépouille remplacée par une autre dès lors qu'un squelette n'a plus de nom propre. Et je peux proclamer à voix haute en 2016, via Veneto à Rome, que le Christ n'est pas ressuscité, le genre de propos qui m'aurait fait sentir de très près le fagot il y a quelques siècles d'ici. Mais si je venais à clamer sur les trottoirs du Caire que Mahomet n'a jamais rien reçu de l'ange Gabriel, alors je risquerais ma peau. Mais notez bien que, au Caire, il y a 3000 ans d'ici, si j'avais nié la résurrection d'Osiris, j'aurais été assez vite expédié au royaume des morts. Donc voyez-vous, Le sacré d'aujourd'hui n'est pas celui d'hier, et ils peuvent même, sur un même territoire, se succéder sans grave difficulté. C'est pourquoi que je dis, il n'y a pas de sacré pour toujours, mais il y a toujours du sacré. Et il y a toujours des gens en France, du moins on peut l'imaginer, hein, que ce soit pour le redouter ou s'en réjouir, il y a toujours des gens prêts à se faire trouer la peau pour une cause qui les dépasse. Mais quelle cause ? Oui, vous n'entendrez plus aujourd'hui en France réciter « Mourir pour la patrie, c'est le sort le plus beau, le plus digne d'envie ». Et rares, je crois, sont les chrétiens qui donneraient leur vie pour l'honneur de Dieu et de la foi, même s'il y en eut, à Tibérine, en Algérie, par exemple. En revanche, pour la maisonnée, pour les enfants, donner sa vie, ce ne serait pas impossible. Comme on dit, la famille, c'est sacré. Donc, voyez-vous, il y a des changements de portage, et comme un repli sur le noyau dur, c'est-à-dire la famille. Je ne parle pas, bien sûr, des human bombs qui imposent de force leur martyr à leurs victimes au nom de Dieu. Alors, ces observations de bon sens, elles suggèrent de remplacer le terme convenu mais commode de sacré par celui de sacralité. Parce que sacralité, ça renvoie à sacralisation. Et que la sacralisation, c'est une opération purement et simplement humaine, où il n'y a d'ailleurs que des reprises. Car l'humanité dans ce domaine ne fait pas preuve de beaucoup d'imagination. On innove guère dans le fondamental. Et en quoi ça consiste cette opération de sacralisation? À quoi ça se reconnaît? La sacralité d'une colline, d'une demeure, d'un bout de papier même, d'un parchemin. Eh bien ça se reconnaît d'abord à l'enceinte. Tout protéiforme qu'il soit, le sacralisé a sa signalétique et paradoxalement, elle n'a rien à cacher. Car si secret et sacré font doublon, la mise sous clé ou en tréfonds, elle se signale à la vue de tous. Si vous allez en Mongolie, vous verrez Gengis Khan, le père de la nation mongole, qui est une figure sacrée à Oulan-Bator. Et vous verrez non loin de la capitale, sa colossale statue d'acier dans la steppe, sur un site surélevé et entièrement grillagé, 50 mètres de haut, et on l'aperçoit à plusieurs kilomètres. Mais restez à Paris, promenez-vous rue de Rivoli, et vous verrez que si la statue de Jeanne d'Arc ne suscite sans doute pas la même ferveur, et qu'elle est en comparaison toute menue, elle est également surélevée avec un emmarchement et la protection d'une grille. Et il y a un vide autour. Le profane, c'est à claire-voie. Le sacré est à l'abri. La tête de Staline ne fait plus baisser celle d'un communiste français en 2017, alors que le dessin de cette tête par Picasso en 1953 présentant Staline comme un bonhomme moustachu, ça a mis en fureur les lecteurs de l'UMA. Oui, 1953. Le sacré politique est à combustion rapide. Le sacré religieux est à mèche lente. 30 ans ont suffi pour que le petit peur des peuples voie ses statues décapitées ou mises à bas. Mais Saint-Serge à Moscou trône encore et toujours en majesté. Oui, cependant, tout arrive, y compris avec le sacré religieux. Tout arrive, y compris que des églises comme au Québec, faute de paroissiens, soient déconsacrées et mises sur le marché, découpées en loft. Oui, il y a des va-et-vient, mais vous chercheriez en vain un pays, y compris un archipel du Pacifique, nouvellement indépendant, qui n'ait pas son monument aux morts, son drapeau, son hymne national, son jour férié et son point de rendez-vous, dûment marqué et protégé. Nous essentialisons, nous sublimons, nous fétichisons quelque chose ou quelqu'un que nous avons nous-mêmes sacralisé ou consacré et que nous déconsacrerons demain. dès que l'aura de l'exceptionnel se sera reportée sur un ancien vaincu ou un nouvel héros. Et on assiste en ce moment même à ce report. Ce report, il se fait, je dirais, de l'histoire vers la nature, en direction du solaire et du chlorophyllien, en direction des arbres, des criques et des rivières. On est passé du père de la patrie à Gaïa, la déesse terre. Alors, qu'est-ce qui s'exhibe à chaque fois dans une sacralisation? D'abord et avant tout, le cerne, le contour distinctif et protecteur. Il faut revenir à l'étymologie. Hein. Sacré, ça vient du verbe latin « secernere » qui veut dire « séparer, dissocier ». Comme le latin « templum », le temple, c'est l'espace circonscrit d'abord dans les airs par le bâton de l'augure, ensuite au sol par un architecte. Et « templum », le temple, ça vient du grec « temnein » qui veut dire « découper ». Et de même « profane », ça veut dire « ce qui se tient pro ». Fanum, devant l'enceinte réservée au culte. Le profane, c'est celui qui est en dehors, au-delà de la barrière. Donc cette opposition sacrée-profane, elle peut ne pas être tranchée au couteau, comme en Afrique par exemple, où prévaut plutôt une échelle de degrés, comme d'ailleurs chez nous. Nous avons des variations dans la sacralité, nous avons même des monstres sacrés au théâtre. Chez les Ashanti du Ghana, par exemple, même une activité technique comme l'agriculture, elle est profane, mais elle touche aussi au sacré, parce que la terre est sacrée par elle-même, d'autant plus que le lopin cultivé est celui des ancêtres. Mais enfin, l'opposition de l'ouvert et du clos, elle se retrouve au propre et au figuré dans tout... les mots fondamentaux du religieux. Dans le paradis, ça veut dire un jardin fermé. C'est un mot perse à l'origine. Elle se retrouve dans le haram arabe et le herem hébreu. Kadosh aussi, en hébreu, c'est lié à l'idée de couper, et le verbe séparer a dans la Bible une connotation rituelle, sacrale, à la fois juridique et politique. Et d'ailleurs, chez nous, l'amour sacré de la patrie, c'est-à-dire la sacralisation de l'Hexagone, elle a commencé chez nous vers le XVIIe ou XVIIIe siècle avec l'instauration en lieu et place d'une marqueterie de possession imbriquée l'une dans l'autre de frontières en ligne continue. Parce que la France n'a pas toujours eu des frontières continues. Donc, premier signe de reconnaissance, un périmètre. Un périmètre bien reconnaissable, doublé, si le terrain s'y prête, d'un dénivelé, d'un parvis ou d'une palissade. Mais le sacré, ça peut travailler à l'économie. Il y a des enceintes économes, comme une rangée de pierres sèches, qui suffit en plein désert, aux bédouins, pour faire une mosquée ou faire ses prières, lorsqu'il aligne ses petites pierres pour créer... un espace clos avec une petite ouverture en guise de porte et une fausse niche en guise de mihrab pour orienter la prière vers la Mecque. D'ailleurs, cet immémorial est l'auteur du génie grec dans la religion, Louis Gernet, a noté qu'il est, je le cite, « de la nature des lieux sacrés qu'ils soient limités. Quand ils sont le siège d'un culte organisé, ils sont entourés d'un mur ou d'une ligne de bornes. » Nous n'avons plus de génie, ni de religion, nous n'avons plus le culte des morts, mais nos cimetières, tout sécularisés qu'ils soient, ils restent saints de murs. Et à l'intérieur d'un cimetière, casse-croûte et jeu de balles interdits. Nous ne croyons plus en la justice divine et nous avons déposé le crucifix accroché au mur des salles d'audience. Mais le prétoire reste un lieu sacralisé. Regardez comment il est configuré. La barre à témoins, on ne peut pas aller au-delà. Le gradin devant le tribunal, la porte capitonnée et bien sûr l'interdiction de boire et de manger dans une salle d'audience. Vous savez, on rentre plus facilement en short et en sandalette dans Notre-Dame de Paris qu'au palais de justice de Paris, où le contrôle sur la tenue est beaucoup plus sévère. D'ailleurs, je vous rappelle que à l'entrée des magistrats, l'assistance se lève obligatoirement, en signe de respect. Signe de respect que les officiants d'une messe n'obtiennent pas toujours à l'intérieur d'une cathédrale. Vous voyez, le sacré civil, il est parfois plus exigeant que le sacré confessionnel. Ce qui nous reste de tenue, il nous l'impose. Mais il faut toujours changer de tenue quand on rentre dans un espace sacré. Il faut enlever ses sandales, comme Dieu l'a ordonné à Moïse sur le mont Horeb. Il faut mettre ou enlever un couvre-tête, accéder ou ralentir le pas, baisser la voix ou l'élever. Bref, de toute façon, il faut s'affubler et se comporter autrement que dans la vie courante.
Jadis voyageant pour Rome, un pape né sous le froc, pris sur mer fut le pauvre homme, mené captif à Maroc. Fut mené captif à Maroc. D'abord il tempête, il sacre, en reniant Dieu bel et bien. Saint-Père lui dit son diacre, mais vous vous damnez comme un chien. Sur un pal que l'on aiguise, croyant déjà qu'on le met, le fondement de l'église dit invoquons Mahomet. Dit invoquons Mahomet. Ce prophète en vaut bien d'autres, je me fais son paroissien, Saint-Père au nez des apôtres, mais vous vous damnez comme un chien. Aïe, aïe, on le circoncise, le voilà bon musulman, sinon parfois qu'il se grise avec un coquin d'imant. Avec un coquin d'imant. Il fait de sa vieille Bible un usage peu chrétien. Saint-Père aussi trop visible, mais vous vous damnez comme un chien. En vrai corsaire il s'équipe, pour le croissant il combat, prend le sorbet et la pipe, dans un harem il s'ébat. Dans un harem, il s'ébat. Près des femmes qu'il capture, voyez donc ce grand vaurien, Saint-Père en quelle imposture, mais vous vous damnez comme un chien. À Maroc survint la peste, soudain fuit notre forban, qui dans Rome d'un air leste rentre avec son beau turban. Rentre avec son beau turban. Souffrez qu'on vous rebaptise, non dit-il, ça n'y fait rien. Saint-Père, en quelle bêtise, mais vous vous damnez comme un chien. Depuis front dans nos mystères, ce renégat enragé veut vider les monastères, veut marier le clergé. Il veut marier le clergé. Sous lui l'église déchue ne brûle juif ni païen. Saint-Père, oh, homme est fichu, vous vous damnez comme un chien. Saint-Père, oh, homme est fichu, vous vous damnez comme un chien.
Par où se voit la visée première d'un acte de sacralisation, c'est le développement durable. Surmonter le chaos, conjurer le terrain vague, maîtriser l'informe et l'infini, c'est-à-dire isoler, délimiter, bref, servir d'antidestin. Pour quoi faire? Pour freiner la dégradation, pour prévenir la dispersion. En ce sens, le sacré, c'est pas du luxe, c'est une bouée de sauvetage. C'est mon assurance-vie, une façon de me mettre hors eau pour ne pas disparaître avant l'heure, ou plutôt pour ne pas couper les amarres avec ce qui me tient à flot. Le sacré, c'est ce qui me rattache à un passé et qui me fait la promesse d'un avenir. C'est d'ailleurs pourquoi, quand une société sent une fragilité, un début de démembrement, de déliquescence, un risque d'abandon, son premier réflexe, c'est de sacraliser, c'est de consacrer, pour consolider, réaffirmer, affirmer. Alors, en régime de laïcité, on n'a pas de sacré. Oui, mais on vote une loi. On vote une loi, par exemple, assortie de sanctions en cas de non-respect. L'hymne national, en 2001, est sifflé dans le Stade de France, au cours d'un match France-Algérie. Le drapeau est piétiné. Et bien, s'ajoutera, en 2003, une nouvelle disposition dans le Code pénal, article 433-5-1, article punissant de 7 500 euros d'amende l'outrage public fait à l'hymne national et au drapeau tricolore au cours, je cite, d'une manifestation organisée ou réglementée par les autorités publiques. Donc le champ d'application de cette loi est limité à l'espace public car telle est bien la fonction et la visée du sacré. C'est la cohésion d'un collectif. Je peux en revanche siffler la Marseillaise chez moi. Je peux même entonner son interprétation sur un mode reggae. Je peux peindre les trois couleurs sur mon paillasson. Éventuellement, d'ailleurs, sur mon papier hygiénique. Je peux insulter le chef de l'État. Ce n'est pas un délit, hein. Je n'aurai pas d'amende. Pourquoi ? Parce que c'est à domicile. Pas vu, pas pris. Pourquoi ? Parce que cela ne touche pas à l'ordre public ni à l'âme de la nation. Alors, le seul problème, le vrai problème qui reste à trancher, et à trancher, je précise, par les tribunaux civils et seulement par eux, parce que nous sommes laïcs, c'est de savoir où faire passer la frontière entre, disons, du culturel licite, façon Serge Gainsbourg, aux armes, etc., et du politique ou du confessionnel illicite. Cette frontière, c'est seulement au magistrat de la déterminer, et pas aux religieux, bien sûr. Mais l'acte de délimiter, ça unit curieusement le politique au religieux. Vous savez quelle était la première fonction dans la Rome antique du rex latin ? C'était de régere fides, c'est-à-dire de tracer les frontières, de signaler où les choses commencent et où elles finissent. Et le dieu qui, le petit buste qui borne un champ d'olivier, s'appelle Terminus et c'est un dieu ou un demi-dieu. Et les murs et les portes de la ville, elles sont dites res sanctae, elles sont sacrées, par transfert si vous voulez, ou ricochet, parce qu'elles marquent une discontinuité. Le sacré, ça fait frontière, et la frontière, ça fait du sacré. D'ailleurs, en grec ancien, instituer une divinité, ça veut dire orizain théon, borner un dieu. Soyez saints, enjoint le Lévitique aux Hébreux. Traduction, écartez-vous, ne vous assimilez pas. Ne mélangez pas la laine d'origine animale avec le lin d'origine végétale. Deutéronome 22:11. Ne mélangez pas le lait avec la viande. Exode 23:19. Et ne vous mélangez pas vous-même avec les goïms. Ce qui vaut pour les textiles et les aliments, ça vaut pour l'humain comme pour le territoire. Israël doit rester séparé des autres nations et son territoire a été proclamé propriété inaliénable du peuple juif. Le dur désir de durer, le laïc n'y échappe pas, et l'athée non plus d'ailleurs. Et ils font ce qu'il faut, sans lésiner sur les moyens. D'où, chez nous aujourd'hui même, la sacralisation du patrimoine culturel. Elle est attestée, elle est protégée par la sacro-sainte règle de l'inaliénabilité des collections publiques dans nos musées. On n'a pas le droit de les céder et encore moins de les vendre. Exactement comme le territoire juif pour les Israéliens. C'est parfois très embêtant parce que ça nous met dans un grand embarras quand des États étrangers viennent nous demander la restitution de telle ou telle pièce qu'on a jadis dérobée dans leur pays, je veux dire un manuscrit coréen, un vieux canon japonais, ou même des restes humains, des têtes de Maoris ou des crânes de chefs ornés. Et on vient de le voir à Washington, par exemple, quand des chefs indiens sont venus demander la restitution d'objets qui étaient pour eux sacrés. Mais qu'est-ce qu'un patrimoine ? Sinon ce qu'on hérite de ses aïeux et qu'on entend léguer à ses descendants. Et que tient-on pour sacré dans n'importe quelle communauté, sinon la continuité fondatrice par quoi elle se définit, c'est-à-dire ce qui précède, succède et excède chacun de ses membres, c'est-à-dire ce que personne n'est en droit de s'approprier, ce dont nul individu ne doit pouvoir disposer à sa guise. Et dans ces demandes de restitution d'objets sacrés pour certaines nations indigènes dites primitives, on a un conflit entre un sacré séculier et laïque, le nôtre, le sacré du patrimoine, et le sacré ancien, si j'ose dire, le sacré ethnique ou religieux des peuples que nous avons spoliés. De là découle un autre trait distinctif, assez étrange d'ailleurs dans une société de marché. Le sacré, ça ne se met pas aux enchères, ça ne se marchande pas. C'est inappréciable, c'est inaliénable et c'est non monnayable. Pourquoi ? Parce que c'est un bien collectif. La Joconde, au Louvre, quand Fidel Castro a visité le Louvre, il s'est arrêté devant la Joconde, il a demandé « ça coûte combien ?» La vente aux enfers se ferait à quelle somme ? On lui a dit, monsieur, non, commandant. La Joconde n'a pas de prix. La Joconde ne sera jamais mise aux enchères. La Joconde est hors marché. Enfin, prions pour qu'elle le reste. Si vous demandez, en visitant le Prado au conservateur, et ce Guernica de Picasso, ça coûte combien ? Est-ce que je peux l'acheter ? Si vous êtes, par exemple, l'émir du Qatar, bah, on vous rira au nez, le Guernica, ça ne se vend pas. Parce que c'est sacré. Et d'ailleurs, vous savez, c'est très astreignant pour les individus. Quand vous avez, par exemple, une demeure inscrite au patrimoine, à l'inventaire, c'est pas une bonne nouvelle hein, pour le propriétaire. Ça veut dire que vous n'allez pas pouvoir y faire n'importe quoi. On n'échangera pas, dans le conflit israélo-palestinien, on n'échangera pas pour faire la paix une tonne de moellons du mur des Lamentations contre une tonne de moellons de la Kaaba. Ni une lettre manuscrite d'un mien aïeul, moi je ne l'échangerai pas contre une lettre manuscrite d'une autre famille. Il n'y a pas de salle de vente pour les reliques, il n'y a pas de marché pour le corps humain et il n'y a pas de brevet pour le génome humain. Autrement dit, le sacré, ça fait la nique à la marchandise et ça fait la nique à l'individualisme. D'ailleurs, une icône dans le monde orthodoxe, elle est certes peinte par un moine, mais elle n'est pas signée. Mais le tag et le graphe sur les murs non plus. Moi, je vois une certaine parenté entre les arts sacrés de jadis et le street art d'aujourd'hui. Vous avez le refus du marché, le regroupement en atelier, l'enseignement par les maîtres, le goût des lieux publics. Je dirais que le graffeur, c'est un médiéval dans la ville postmoderne. C'est, je dirais, un nostalgique du temps passé. Tout anarchiste qu'il soit, il joue pas le jeu en refusant de tirer la couverture à soi, en refusant de vendre ce qu'il fait. Alors c'est un peu aberrant, mais vous savez, tout ce qui construit normalement une communauté sera vu comme pathologique, absurde ou aberrante par l'individu souverain. Il y a une remarque de Karl Kraus sur le drapeau, n'est-ce pas, dans son très savoureux livre « Je n'ai aucune idée sur Hitler ». Il écrit ceci, « Un morceau d'étoffe colorée ne signifie rien pour l'individu isolé ». Le fait que ce soit la foule qui en ait besoin, voilà une grande possibilité de ruine. C'est vrai. Quand on pense à tous les gens qui se sont sacrifiés pour la défense du drapeau, c'est vrai qu'il y a une possibilité de ruine. Oui, mais enfin, Sans doute notre article 433.5 de notre code pénal, il aurait bien fait rire Karl Kraus, mais la dégradation d'une communauté en a tohu-bohu de hordes indistinctes sans un emblème fédérateur, ben ça ne nous ferait pas rire, nous. Dans notre checklist de ce qui est sacré, n'oublions pas la fonction, je dirais, agglutinante ou magnétique. Un lieu sacralisé est toujours un point de ralliement, un point de convergence pour une diaspora, un but de pèlerinage. L'an prochain, à Jérusalem. À chaque mouvance en Jérusalem, que ce soit le Saint-Sépulcre pour les chrétiens, la place de la République pour les républicains, ou la roche de Solutré pour les mitterrandistes. S'y réaffirme à chaque fois une identité collective, un vieux compagnonnage ou quelques retrouvailles avec l'essentiel. Disons que le haut lieu refait lien, comme le sanctuaire de Delphes dans la Grèce antique, où se déroulaient les panégyries, ou comme le sanctuaire d'Olympie avec les Jeux olympiques, il servait de creuset au panhellénisme. Il réunifiait les cités rivales de la Grèce, comme la Mecque réunifie les nations islamiques, y compris les chiites et les sunnites, comme le site d'Auschwitz a pu rassembler tous les chefs d'État européens, le russe et l'allemand compris côte à côte, au moment de célébrer l'anniversaire de la libération d'Auschwitz. C'est un site fédérateur et à ce titre sacralisé. On y célébrera peut-être un jour, s'il venait à se former, le paneuropéisme. Mais n'oublions pas qui consacre bien, exècre bien. Et ces lieux de concorde où s'affiche une appartenance collective sont ipso facto des lieux de discorde, où le taux d'homicide est plus élevé qu'ailleurs. Faire corps, c'est faire face. Au sarrasin, à l'infidèle, au boche, au coco ou aux 200 familles. Disons un entre nous qui se réunit sur un lieu sacré, c'est toujours un contre eux qui ne dort que d'un œil, toujours prêt à se réveiller au moindre empiètement. Oui, parce que là où s'exalte un regroupement, couve un affrontement. Terre sainte, terre minée. Terre sainte, terre minée. Avec des mines par-dessous. Enfant de cœur, s'abstenir. La violence rôde. Les zones tampons et les missions de surveillance ou d'interposition de l'ONU sont bienvenues. Allez en Terre Sainte pour voir. Voyez Hébron et ses colons. Voyez l'esplanade du Temple à Jérusalem. Voyez le temple hindouiste d'Ayodhya en Inde, reconquis sur l'emplacement d'une mosquée dans une violence inouïe par les hindouistes. Voyez même le sanctuaire Khmer de Preahvikhear à la frontière de la Thaïlande où s'échangent des duels d'artillerie entre Thaï et Cambodgiens. Et voyez aussi tout ce qui s'échange d'injures et de horions autour d'un monument aux morts ou d'un héros soviétique en granit entre la Fédération de Russie et tel ou tel pays balte. On comprend au fond que notre milieu historique, notre milieu contemporain a quelques raisons de tourner le dos aux mots sacrés et aux choses sacralisées. D'abord, le rejet de toute suggestion à un dogme quelconque, l'allergie à tout ordre, comme on dit, hétéronome, venu d'ailleurs. Et ensuite, la promotion d'un individu retranché, libre de toute attache qui n'a d'autre maître que son désir. Or, le sacré, c'est tout ce qui se fait, se lit, se chante, en groupe, en cadence et au coude à coude. L'horreur pour l'individualisme démocratique. Et il est vrai que, si la chose publique peut difficilement se passer d'un point de sacralité, un simple individu, un fort individuel, peut n'en voir que les aspects contraignants et même rebutants. Et il y a du rebutant dans le sacré. J'ai parlé de la violence, de la tension. Le saint, lui, il est tout bon, si j'ose dire. Le saint est un élu, un glorieux qui, béatifié ou canonisé après sa mort dans l'Église catholique, va mériter un culte d'honneur universel et public. On appelle ça un culte de Dully. Le culte d'adoration, le culte de latrie étant réservé à Dieu et à Dieu seul. Le sacré, lui, c'est pas tout bon. Il y a du moins bon. Il y a des dommages collatéraux. Et d'ailleurs, en latin, quand on disait, quand un flamine disait d'un citoyen « sacer esto » qu'il soit sacré, ça voulait dire qu'il soit maudit. Mais même dans notre langage, le sacré, c'est ambigu, hein. Le sacrum, par exemple, je vous rappelle, c'est le coccyx. Et les vertèbres sacrées, elles jouxtent notre cul. Le crucial, comme le sacré, a toujours double sens. Hein. Il est sublime et il est repoussant. Et le sacré, il est ambivalent. Et oui, il est ambivalent comme le feu, qui peut brûler et ranimer. Il est ambivalent comme l'eau, qui peut noyer et raviver. Tout ce qui touche aux fondamentaux de la vie est ambivalent. Et l'eau et le feu, ils ont leur légende noire. Il n'empêche que nous avons besoin d'eau et de feu pour survivre. Pour devenir fort ou rester fort. Et je vous rappelle qu'en grec ancien, hiéros, d'où se forme hiérarchie, etc., hiéros, ça voulait dire chez Homère, fort et vigoureux. Alors c'est vrai, point trop n'en faut. Ce qui consolide, ça peut aussi ankyloser. Ce qui ravigote, ça peut aussi assommer. Je pense là à un mot de Valéry. Deux choses menacent le monde, disait Valéry, l'ordre et le désordre. Eh bien, disons dans le même esprit que deux choses menacent nos communautés, le sacré et le profane. Trop de sacré, pensons à l'islam intégriste, c'est immobilisme et pétrification. Pas assez, pensez à notre Europe d'aujourd'hui, c'est démembrement et décomposition. Alors oui, il y a des lieux et des moments où il faudrait crier bien haut. Arrêtons de transmettre pieusement, innovons, délivrez-nous des ancêtres et des héritages. Assez de sacré. Et d'autres où on aurait envie de gueuler. Arrêtons de communiquer et de couper la tête à tout ce qui dépasse. Sacralisons ce qui nous fait tenir debout et ne profanons pas jusqu'à l'indispensable. Comme disait Vladimir Ilitch, tout dépend des conditions. Et dans nos conditions aujourd'hui en France, on peut se prendre à penser que la République aura ou aurait un avenir plus assuré du jour où le chef de l'État osera ou oserait évoquer à voix haute, du haut d'une tribune, non des valeurs en carton-pâte, mais notre sacré laïque et républicain. Je vous remercie.
C'était Allons au fait, une émission proposée par Régis Debray, réalisation Rafik Zénine. Réécoute et podcast sur la page de l'émission sur le site de France Culture.